Et à toutes. Et nous sommes vraiment dans la joie d'être parmi vous. Hein, donc moi, ça fait combien, au moins 2 ans, 3 ans que je suis venu ici. J'ai annoncé pour la première fois. Et vraiment, je suis dans la joie lorsque je viens ici parce que c'est renouvelé. Hein, et donc on se connaît bien avec maintenant Jean-Luc et son épouse. Et vraiment, c'est quelque chose de, c'est une amitié qui s'est créée, un amour fraternel. Et cela, c'est ça qui est merveilleux. Donc, je voudrais dire tout simplement, avant de donner des témoignages à Gédéon, j'aimerais tout simplement vous donner, c'est-à-dire quelques réflexions sur un thème qui nous concerne tous. C'est le thème de l'évangélisation. Et comme mon frère a dit, c'est vrai, c'est un fil conducteur et nous avons besoin de cela. Et nous sommes venus avec mon épouse ce matin dans votre église pour témoigner de ce que fait Dieu à travers nos distributions dans diverses sphères, lycées, universités, hôpitaux, casernes, hôtels, etc. Et avant d'ouvrir le volet des Gédéons, j'aimerais partager avec vous sur le thème de l'évangélisation. Et au travers de ces quelques réflexions, je vous encourage à persévérer dans la voie que Dieu a tracée pour chacun de nous. Hein? Dieu nous a tracé à chacun une voie et nous devons l'emprunter. Donc je ne peux pas emprunter la voie de mon voisin, etc., mais je dois emprunter ce que Dieu a préparé pour moi. Donc la définition de l'évangélisation, c'est prêcher l'évangile à ceux qui le connaissent, à ceux qui l'ignorent. L'évangile, la bonne nouvelle du salut pour l'humanité. Et je vais vous donner quelques caractéristiques de la bonne nouvelle. C'est quoi? Démontre la puissance de Dieu. Et nous lisons ceci dans 1 Romains 1 et 16. Je vais vous les lire, hein. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Révèle la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4:4, la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Et elle est éternelle. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 1 Pierre 1:25. Cette bonne nouvelle nous appelle. C'est à cela que Dieu nous a appelés par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de votre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 2:14. Et ce qui est merveilleux également, elle nous sauve. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, 1 Corinthiens 15, 2. Et ce qui est merveilleux, que nous avons besoin, tant besoin, elle nous donne la paix. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Donc, Éphésiens 6, 15. Nous donne l'espérance. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile, car cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Donc c'est dans Colossiens 1 et chapitre 23, mais c'est à la fin de ce verset. Nous donne la vie. Il a brisé la puissance de la mort, et par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et l'immortalité. C'est quelque chose de merveilleux. Donc nous avons quoi? Nous avons une espérance. Cette bonne nouvelle croît et porte du fruit. Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès. Donc Colossiens 1, 6. Donc nous pensons, lorsque nous distribuons, lorsque nous parlons de l'Évangile, quelquefois on n'a pas de retour. Mais la parole fait son effet. Dieu, il est souverain. Donc ne nous décourageons pas. Notre réponse à l'évangile, c'est quoi? C'est le croire. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne sont pas associés par la foi à ceux qui l'ont reçu. Donc là, il est question des Juifs. Et c'est vrai que Dieu, Christ est venu, ils ne l'ont pas accepté. Et c'est au travers de tout cela que nous, païens, on a eu cette grâce, que nous sommes assemblés en un peuple de Dieu. Le servir, nous envoyons avec lui le frère qui est apprécié dans les églises par son travail au service de la bonne nouvelle. Donc, en lisant ça dans 2 Colossiens 8, 18, il est question, c'est-à-dire avec Tite et d'un frère qui l'accompagnait, et nous est dit apprécié dans les églises par son travail au service de la bonne nouvelle, pas au service de quelqu'un, au service d'un homme, etc., au service de la bonne nouvelle. Là-bas, la bonne nouvelle qui est la vie. Persévérer, il faut persévérer, mais il faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Demeurez dans la foi. Notre obligation, c'est de l'annoncer. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si Dieu nous a sauvés, si Dieu a fait une œuvre dans notre vie, nous également, nous devrons la transmettre à d'autres, à toutes et celles qui se perdent. Et nous devons défendre l'Évangile. Ces derniers agissent par amour, ils savent que je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. C'est vrai que c'est dans Philippiens 1,16 que Paul avait beaucoup d'ennemis, mais il défendait ce que Dieu lui a donné. Il était certain, il était sûr qu'il y avait la foi en Dieu, que cet Évangile est la vérité. Et il la défendait. Le prêcher. Dans Actes 8,4, les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Et ça ne va pas sans soi, c'est-à-dire que lorsque nous prêchons, lorsque nous persévérons, il y a également la souffrance, et de la souffrance, on en fait un peu, on ne voudrait pas souffrir, mais le monde est fait de souffrance, et nous devons passer par là, même les chrétiens. N'ayez donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'ayez pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu nous a donnée. Et prêcher l'Évangile, c'est vrai, c'est pas une facilité. Il y a des hostilités. Et nous devons remettre tout ça à Dieu, à ce Dieu qui est souverain de toutes choses. Et j'aimerais quelques instants m'arrêter sur ce mot qu'on avait, c'est l'espérance. Bon, pour pouvoir accomplir notre mission d'évangélisation, nous devons posséder trois critères. La foi, l'amour et l'espérance. J'aimerais m'arrêter sur un court instant sur l'espérance. Et c'est dans Colossiens 1,23 qu'il nous a dit à la fin du verset, « Sans vous écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit cette phrase, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. » C'est Hébreux 6, 19. Dans la version Semeur, cela nous est transcrit de cette manière-là. « Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie sûre et solide. » Et c'est vrai, lorsque nous posons la question comme ça, tout simplement, si dans la vie nous n'avons pas d'espérance, la vie n'a pas de sens. Parce que Dieu est absent de la vie. Le désespoir est devenu l'une des caractéristiques de cette société postmoderne. Pourtant, l'espérance authentique est une réalité pour quiconque a rencontré personnellement Jésus-Christ et pour qui la Bible est devenue un repère solide pour l'avenir. Donc ne nous décourageons pas. Au cœur de l'espérance, il y a les promesses de Dieu. Et selon la définition du petit Robert, donc j'ai pris l'espérance, et je vais vous le dire, l'espérance est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. Et là, il est bien noté comme probable, ça veut dire que c'est pas certain. Mais dans les Écritures, c'est bien plus que cela. C'est la foi en la parole de Dieu. Cette dernière nous parle de l'espérance comme une certitude, celle d'un avenir brillant et glorieux pour le croyant. Tout se réalisera en Christ, car toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. 2 Corinthiens 1:20. La fidélité de Dieu est garante de la réalisation de toutes les promesses. La fidélité de Dieu est garante de la réalisation de toutes les promesses. Et Dieu, il est fidèle. Si bien si nous dévions du chemin, Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Donc contrairement aux vaines promesses de ce monde, synonymes d'illusion et de désespoir, celles de Dieu sont l'objet de notre espérance. Que le Seigneur soit béni. Il y a 3 raisons d'espérer. La première, et vous constatez, bon, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de choses. La création tout entière aspire à une libéralisation de ses douleurs. Elle souffre, comme nous aussi nous souffrons, à cause de cette soumission à la vanité suite au péché de nos premiers parents. La promesse de Dieu nous remplit pourtant de l'espérance d'un avenir glorieux. Donc un jour, nous serons vraiment dans la félicité. Tel que nous voyons ici, un jour nous serons tous ensemble. Nous allons faire la fête ensemble. Que le Seigneur soit loué. La création a été soumise à la vanité. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la libération des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire de l'enfantement. Bien plus, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Et c'est Paul qui le dit dans Romains 8:20-25. Et ce qui est merveilleux également, l'espérance est le moteur qui nous permet de persévérer jusqu'au bout. Si nous n'avons pas d'espérance, il nous arrive quoi que ce soit dans la vie, nous doutons, nous fléchissons et quelquefois nous abandonnons. Et elle nous console. Dieu ayant formellement promis dans sa parole des choses glorieuses au-delà de cette vie terrestre, Donc c'est pas fini sur la terre. Donc il y a quelque chose de meilleur l'au-delà. L'espérance, c'est Christ en nous. Celui qui nous console, nous fortifie, nous restaure et implante en nous cette vision glorieuse de l'avenir avec lui. Et c'est le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. C'est-à-dire, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, dans Colossiens 1:26-28. Christ est l'espérance de la gloire, car en lui aura lieu le dénouement final. Il est notre espérance pour la vie présente. Christ est ma vie, disait Paul dans Philippiens 1:20-21. Et pour l'avenir, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:8. Et en conclusion, Je dirais qu'il y a une espérance à vivre. La vertu de l'espérance aide concrètement l'Église à s'attacher au Seigneur et à marcher avec patience vers la demeure céleste. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Et nous, on vit dans la vie que tout doit se faire à l'instant T. Si nous ne l'avons pas à l'instant T, nous sommes insatisfaits. Mais ici, Dieu nous dit quelque chose des paroles merveilleuses, à marcher avec patience vers la demeure céleste. Et la nature nous apprend également qu'il faut un temps. Et ce temps-là, c'est un temps de Dieu, et je ne peux rien y faire. Et soyons de ces gens qui comprennent ce que Dieu veut vraiment faire dans notre vie. Cette espérance concerne les cieux, au-delà, le futur, la réalité spirituelle lors du retour de Christ. Nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Dans Colossiens 1, 3, 4. Et l'espérance va de pair avec la patience. Si je ne suis pas patient, je ne peux pas espérer. Hein, si je suis un homme qui voudrait tout avoir, ben je ne peux pas espérer. Donc l'espérance, c'est quelque chose, bon, il faut avoir de la patience, il faut attendre. Hein, c'est comme lorsqu'on fait un cadeau aux enfants à Noël, maintenant les enfants, lorsque le cadeau, il veut que ça soit ouvert pratiquement de suite. Ils n'ont pas la patience de patienter. Et nous également, c'est pareil, hein, on vit dans un monde comme ceci, on voudrait avoir tout de suite. Mais la Bible nous parle d'une autre manière, et elle veut à tout prix que nous puissions, c'est-à-dire plonger nos regards dans cette parole de vie. Et les Thessaloniciens la poursuivaient sans se lasser. Ainsi, Paul parle de leur patience d'espérance. Et si vous avez l'occasion, lisez ce bel épître. Donc c'est 1 Thessaloniciens 1, 2, 3. De quelle manière que Dieu a agi parmi nos contemporains qui étaient les Thessaloniciens. Dans nos dialogues avec nos amis non-croyants, laissons jaillir toute la fraîcheur de notre espérance en Christ. Et ça, c'est primordial. Lorsque je parle de Christ, j'ai un vécu. Donc c'est vraiment frais pour que les gens qui nous entourent puissent avoir envie de venir à Christ. Celle-ci devrait susciter des questions de leur part. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de votre espérance en vous. 1 Pierre 3, 15. Et si nous avons le Seigneur, nous pouvons dire Alléluia. Il faut dire, écoute, le Seigneur t'aime, viens. Cette espérance s'identifie d'abord avec une personne, c'est Christ, garant de tout l'héritage auquel nous aurons part lors de son retour. Les promesses du retour fabuleux du Seigneur constituent pour les chrétiens de tout âge, hein, pas les jeunes, les moins jeunes, les plus, de tout âge, une force, un optimisme réaliste, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc au travers de ce petit message, de ce petit commentaire, j'aimerais ça dire, vous passez maintenant sur les témoignages des Gédéons. Donc qui sont les Gédéons? Alors, vous devez le savoir hein, déjà depuis le temps qu'on le dit. Bon, nous sommes, bon, je vais un peu faire de la pédagogie. Hein, la pédagogie, c'est quoi? C'est l'art de répéter la même chose, non? Pour que les gens puissent se souvenir. Donc c'est une association de chrétiens qui sont dans les affaires et occupent un poste à responsabilité. Cette association a été fondée en 1899. Donc le nom de Gédéon a été choisi après une réunion de prière sur la base de la prodigieuse histoire de Gédéon que vous lisez où? Juge. Justice. Bien. Et 7. Hein, c'est bien. Merci Seigneur. Gédéon était un homme, comme vous, comme tout le monde, un homme du peuple, désirant, mais qu'est-ce qu'il y avait? Désirant faire la volonté de Dieu, sans tenir compte de sa propre façon de voir. L'humilité, la foi et l'obéissance étaient des traits marquants de son caractère. Donc c'est quelque chose de primordial, hein. L'humilité, la foi et l'obéissance. C'est également le but de l'association des Gédéons d'obtenir de tous ses membres. Bon, nous ne sommes pas parfaits, hein. Bon, de faire la volonté de Dieu, n'importe quand, n'importe où, selon la façon dont le Saint-Esprit juge bon de conduire les choses. Hein, donc c'est un engagement également qui est réfléchi, ce n'est pas un engagement comme ça à la légère, il est réfléchi. Les Gédéons sont des membres d'églises protestantes ou évangéliques. Le Seigneur les a appelés à donner massivement sa parole qui sauve à un monde qui se meurt. Par cet appel particulier, il place la parole dans les chambres d'hôtel, la distribue aux jeunes des lycées, collèges, aux universités, aux détenus et à leurs gardiens, aux militaires, au corps médical. Et les épouses des Gédéons, parce qu'il faut les mettre en valeur, sont également actives dans le ministère. Donc quelquefois vous allez entendre ce mot qu'on dit dans les Gédéons, les auxiliaires. Mais ce mot-là, on le bannit un peu parce que ça veut rien dire, parce que c'est traduit de l'américain. Donc ce sont bien nos épouses. Hein. Les Gédéons ne peuvent pas supporter que leur prochain se perde, faute de connaissances. Ils veulent participer à évangéliser et lui donner la meilleure chance d'être sauvé. Donc aujourd'hui, les Gédéons placent plus de 3 Nouveaux Testaments par seconde, 24 sur 24. Dans 88 langues différentes autour du monde, soit, allez, vous avez fait le calcul, soit 95 millions par année. Bon, et nous voudrions également, c'est-à-dire dans l'avenir, c'est-à-dire bon, multiplier ce chiffre, c'est-à-dire en augmentation pour qu'ils soient. Ça, c'est le défi. Et le Seigneur est merveilleux, il fait des choses merveilleuses. Cette parole, le Seigneur l'utilise pour sauver les perdus. Et elle est quoi? Elle est vivante et efficace, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Le prophète Ésaïe, de la part de l'Éternel, prononçait ces paroles. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc ce que nous faisons, ce que vous faites, ce n'est pas vain. Robert, un détenu de la prison de Lognes. Donc c'est pas loin, hein. C'est dans la région. Et donc l'aumônier, je vais le citer le nom, donc Jean-Luc, tu dois le connaître, c'est Jean Zumach, hein, qui était pasteur de l'église de l'Eau Vive. Donc il était aumônier dans cette prison et il rend ce témoignage. Donc c'est intéressant. L'aumônier protestant de la prison de Lognes, un des pasteurs de l'église Eau Vive de Lille, est approvisionné en Nouveau Testament, bon, bleu. Je vais encore le sortir, mais vous le connaissez déjà, hein, celui-ci, par les Gédéons de Dunkerque. L'an dernier, il avait raconté le témoignage de conversion de Robert, un des détenus. Il n'avait qu'une idée en tête, c'était le suicide. Et aujourd'hui, il est chrétien converti. Et à la suite de quoi? À la suite de la lecture de ce Nouveau Testament reçu des mains de l'aumônier. Donc les aumôniers dans les prisons, ils sont utiles. Non mais j'ai votre témoignage, hein, sa sœur. Je l'ai noté, hein. Mais je ne peux pas le dire ici, quoi, parce que... Il est connu, ouais. Avec lui, plusieurs détenus de cette prison, donc c'est ce qui est merveilleux. Avec lui, plusieurs détenus de cette prison ont eu accès à la parole par l'intermédiaire de l'aumônier. Et un autre détenu est sorti récemment de cette prison, il est sorti, et fréquente désormais une église évangélique de Dunkerque. Ma gloire à Dieu. Donc c'est pas en vain, c'est pas en vain. Hein, donc je fais une petite aparté. Donc nous, dans les prisons, nous ne pouvons pas aller dans les cellules. Donc nous passons par les aumôniers. Hein. Donc il y a également, je sais pas, tu dois le connaître également, sur Mons. Lui fait la prison de Sogoda. Hein. Ouais, Jean-Louis. Ben, Jean-Louis également, je l'ai approvisionné. Hein, donc voilà. Donc le Seigneur fait son œuvre. Ce Seigneur est magnifique. Et une étudiante du lycée privé d'Asbrook. Bon. Mais elle faisait partie de ce lycée. Donc je vais donner ce témoignage parce que c'est quelque chose de merveilleux. Donc c'est le groupe de Dunkerque. Ça, c'est le groupe de Dunkerque qui nous l'a donné. Une jeune chrétienne est au lycée privé de Saint-Jacques d'Asbrook. Dunkerque ne peut faire de distribution à la sortie des écoles privées. Bon, sujet de prière. Bon, je vais pas m'étendre sur ce sujet. Bon, Jean-Luc le connaît. Bon, on a des difficultés, c'est-à-dire à distribuer dans les lycées privés. Donc, nous travaillons sur ça. Donc, bon, priez pour ça. Priez pour ça. Bon, les portes commencent à s'ouvrir. Nous avons déjà, bon, un accès. Donc c'est déjà bien. La porte est entrouverte. Bon, priez dans cela et que tes personnes puissent nous intervenir, nous aider dans ce domaine-là, ça serait merveilleux. Cette jeune fille témoigne du Seigneur à son ami. Elle reste perplexe. Alors la chrétienne lui dit, le Seigneur s'intéresse à toi, crois-moi. Tu n'as qu'à lui demander un signe. Donc elle se quitte et quelques instants plus tard, voilà le signe. Elle découvre un Nouveau Testament Gédéon par terre, sur le chemin. Que faisait-il là? Ben, ce soir-là, il y avait eu cette distribution des Gédéons de Dunkerque à la sortie du lycée public des Flandres, de la même ville. Et un lycéen avait reçu un Nouveau Testament, mais il l'avait jeté dans la rue, emprunté par la jeune fille qui attendait ce signe. Le Seigneur est merveilleux. Alors, quelquefois, c'est vrai. Lorsque nous distribuons, ça arrive un peu moins, mais lorsque nous distribuons, les étudiants jettent. Bon, nous, derrière, nous le ramassons. Hein? Donc, voilà. Donc, le Seigneur utilise des choses. Il est merveilleux. Donc, il a utilisé, il l'a jeté, et cette jeune fille l'a prise, elle est venue au Seigneur. Et là, un témoignage d'un Kabyle. Donc, ça, c'est le groupe de Rennes. Tard, Kabyle musulman fait une école coranique. Première chance. Et Dieu nous donne quelquefois plusieurs chances, il ne nous donne pas toujours la première, plusieurs. À Alger, dans une librairie chrétienne, donc Tahar achète une Bible pour l'offrir à sa femme, d'origine polonaise, catholique. Lui ne comprend rien à la Trinité et laisse tout tomber. Seconde chance. En 1983, à la fac de Jussieu, il ramasse des Nouveaux Testaments mis à la poubelle par des étudiants. Il les ramasse. Et continue la distribution dans l'amphithéâtre de l'université. C'est quelque chose de merveilleux. Hein? Lui qui n'était pas géant, les ramasse et commence à les distribuer. En prenant un et même deux pour lui. Et en prend. Donc il se rassure. Son épouse se convertit. Bon, il la conduit régulièrement au culte. Et en l'attendant dans la voiture, il lit le Nouveau Testament. Et un jour, il lit ce passage. « Invoque-moi et je te répondrai. » Et à partir de ce jour, il reçoit la paix dans son cœur et se fait baptiser. Il est épanoui et glorifie son Sauveur du plus profond de son cœur. Quelque chose de merveilleux. Et ici également, soit dans la région lilloise, nous avons distribué également. Nous avons distribué, c'était lorsqu'on a fait l'université, donc c'était aux quatre cantons, Et aux quatre cantons, les étudiants y passaient, on distribuait, il y a des personnes qui laissaient les Nouveaux Testaments, dans la gare, dans la station. Et il y avait là des policiers. Et ces policiers les ont ramassés. Il est ramassé parce que nous, on passe derrière pour voir un peu si ça traîne pas. Bon, c'est une question pour avoir de l'ordre. Bon. Et ces policiers ont ramassé ces Nouveaux Testaments et vous savez ce qu'ils ont fait après? Ils ont distribué au commissariat de police. Ben, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, on voit très bien que Dieu agit. Dieu agit. Et quelquefois, c'est vrai, dans notre mission, nous sommes découragés. Parce que nous ne voyons pas tout de suite les fruits. Mais Dieu, lui, le sait. Dieu, lui, il n'y a pas de problème. Lui, il va faire croître. Donc nous devons avoir cette patience. Et avoir la foi, tout simplement. Et si nous faisons confiance en Dieu, Dieu va l'exécuter. Mais il ne va pas l'exécuter à l'instant que nous voulons. C'est le problème, il est là. Donc nous devons, c'est-à-dire, faire confiance à ce Dieu créateur, à ce Dieu qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est quelque chose de merveilleux. Et le partenariat avec les églises, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc les Gédéons, ce sont des chrétiens. Comme votre pasteur l'a dit, je fais partie de l'église du Triolo. Voilà. Un bon renom de leur église. Je me permets ici parce que je vous connais. Hein? Donc c'est vrai, un bon renom, parce que on peut pas être Gédéon, n'importe qui, n'importe quoi. Il faut être sérieux également dans tout ce que nous faisons. Hein? Ils s'unissent pour distribuer gratuitement la parole de Dieu et pour témoigner, dans le but d'amener des hommes, des femmes et des jeunes à Jésus-Christ. Bon, et je vais encore dire, nos épouses font également un travail qui est super, de longue haleine, parce qu'elles font les cabinets médicaux. Et les cabinets médicaux, je vous assure, c'est pas si évident que ça. Hein, donc les médecins, ce sont également des scientifiques. Donc ils n'ont pas besoin de l'Évangile. Bon, je ne sais pas si c'est compliqué. Non, c'est trop facile. Hein, mais il y a des chrétiens également. Il y a des médecins qui sont chrétiens. Et ceux qui sont chrétiens, ben ils nous font du bon travail. Hein, donc priez également pour que Dieu également suscite des personnes dans le domaine médical qui ont des postes à responsabilité. Nous semons nuit et jour, sans que nous sachions comment le Seigneur fait germer et croître pour que les églises moissonnent. Nous sommes émerveillés par cette moisson qui dépasse tout ce que nous pouvons demander ou croire. C'est en votre nom et grâce à votre soutien que la parole est répandue. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Sans vous, sans le soutien des églises, nous n'existerions pas. Vous êtes donc avec nous, mais vous êtes aussi après nous. Donc Robert, ce détenu, et bien d'autres ont pris la décision la plus importante de leur vie, mais ils ont besoin d'une église, ils ont besoin d'une église pour vivre leur foi, pour être enseignés et pour croître spirituellement. Nous sommes donc vraiment des partenaires. Des partenaires. C'est ainsi que notre église dispose de combien ? De 300 000 missionnaires. Répartis dans plus de 193 pays. L'année dernière, on a distribué gratuitement plus de 90 millions d'écritures dans des endroits où vous ne pourriez pas aller. Imaginez la moisson que promettrait pareil semail. Vous savez, hein, donc il y a des sphères qu'on n'arrive pas à saisir. Bon, pour l'instant, les portes sont fermées. Mais prions pour cela. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des églises. Alors, comment avoir part à ce ministère? Donc, je vais en parler. Peut-être ici, parmi vous, il y a des futurs, on dit dans notre jargon des Gédéons, des futurs Gédéonables. Donc, vous êtes les bienvenus. Et voici comment chacun de vous, petit ou grand, a part à ce ministère. Donc, merci pour vos prières. Rien, absolument rien ne résiste à la prière, parce que le Seigneur est tout puissant. C'est pourquoi rien n'est plus important que la prière et la louange. Louez le Seigneur, parce que c'est lui qui va permettre à ce ministère de se développer. C'est lui qui va ouvrir les portes des prisons, des hôpitaux, des hôtels, qu'ils ont toujours fermés. Et c'est vrai, priez vraiment pour les hôtels. Les hôtels, c'est vraiment une sphère qu'on a beaucoup de difficultés. Bon, tous les groupes, ce sont des groupes, donc ils ont des chartes. Donc ils peuvent pas ils doivent répondre à le truc. C'est la documentation, c'est Y, c'est Z et c'est tout. Hein. Si c'est X, ça passe pas. Donc priez pour ça. Et ça, il faut qu'on essaie d'atteindre la sphère la plus haute. Hein, donc c'est les responsables. Bon, priez pour ça. Donc au sein des généraux, il y a des gens qui ont également des responsabilités pour que Dieu suscite. Pour que Dieu donne à cœur à des hommes de travailler dans ce domaine-là. Et merci pour vos offrandes. Toutes les offrandes que nous recevons servent exclusivement à l'impression et à distribution de la parole. Donc, j'insiste, toutes les offrandes vont à l'impression de la parole de Dieu. Donc, ce que vous donnez, c'est systématiquement mis, nous le distribuons aux lycéens et aux détenus, etc. Nos frais généraux sont absorbés par la cotisation de nos membres. Donc les membres, on paye une cotisation. Chaque fois que nous recevons un euro, c'est un nouveau testament comme celui-ci qui a sauvé Robert et bien d'autres, qui distribuaient quelque part dans le monde. Hein, donc les frais, c'est un euro pour un nouveau testament. Et c'est vraiment magnifique parce que tout est imprimé aux États-Unis et nous avons vraiment quelque chose, une opportunité dans ce domaine-là. Et merci pour votre participation, hein, que des hommes ou les couples qui ont à cœur le salut des âmes perdues viennent me parler à la fin du culte pour savoir dans quelles conditions ils pourraient faire partie de notre association et distribuer avec nous. Donc je l'ai déjà fait. Hein, donc je voulais dire, je répète, ceux qui ont le désir, bon, viennent discuter, bon, et après, bon, avec l'accord de votre pasteur également. Hein. Les hôteliers ne se décideront à mettre dans leur chambre des Bibles que s'ils constatent que leurs clients en veulent. Bon, et ça, je pousse un peu et je plante un peu ce clou-là dans les églises, parce que lorsque vous allez en vacances et vous passez à un hôtel, bon, vous avez, c'est-à-dire, des doléances à remplir. Bon, dites-le qu'il y a, c'est-à-dire, une Bible qui manque. Hein? Et c'est très important, parce que, bon, comme il y a les chartes, donc, bon, et pourquoi qu'il n'y avait pas de Bible? Mais parce qu'il y a les outils, ils le savent, hein? C'est pas, il n'y a pas de... Et bon, il y a un mois, on était parti sur un mentir. Il y a un hôtelier privé qui nous a pris 10. Hein. Bon, donc, parce que les personnes pensent que lorsque c'est Nouveau Testament, donc ce sont les trilingues, en trois langues, donc c'est français, anglais et allemand, donc pensent que les gens les volent. Bon, mais ils ne les volent pas. Nous, c'est bon. S'ils les prennent avec eux, c'est magnifique. Comme ça, nous pouvons renouveler le stock. Mais ça, on ne leur dit pas, hein. Non, on leur dit pas. Donc, quelquefois, ils nous posent la question, ben, monsieur, écoutez, il n'a plus. Ben, il n'a plus, on va vous approvisionner, hein. C'est le but recherché. Hein? Ah, donc, ça, réclamez-les, parce que nous, on a vraiment un petit problème. Donc, si les chrétiens n'en réclament pas, qui en réclamera pour eux? Hein, je vais vous donner un petit témoignage, hein, parce que c'est merveilleux. Et cela faisait des années que nous tentions en vain de placer des écritures dans le mercure de la défense. 500 chambres. Et un beau jour, c'est ça qui est merveilleux, il nous a demandé parce qu'il avait eu 3 réclamations. Hein, donc c'est pour ça que c'est utile. Ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas que c'était tellement important pour leurs clients. 3 réclamations dans un étal de 500 chambres. Vous voyez comment que c'est efficace. Et c'est vrai, c'est efficace. Lorsque vous réclamez, il y a quelque chose qui va se produire. Hein, donc faites-le, hein, et que le Seigneur vous bénisse dans cela. Parce que c'est quelque chose d'utile. Et on va pas s'étendre, il y a tellement de témoignages également dans les chambres d'hôtel, il y a des personnes qui sont venues là dans les chambres d'hôtel pour une raison, bon, pour une raison fortuite, ou bien ils ont également ils voulaient commettre des choses, des suicides, etc. Et au travers de cette parole, lorsqu'ils ont dû, ils ont été délivrés. Donc la parole de Dieu, elle est efficace. Bon, et les hôteliers ne comprennent pas ça, parce que lorsqu'ils ont un suicide ou quoi que ce soit dans leur hôtel, ça leur pose beaucoup de problèmes. Hein, beaucoup de problèmes. Et pour éviter ces problèmes, on leur dit, bah, écoutez, de ce fait-là, prenez quelques bibles. Bon, merci de nous accueillir à nouveau dans votre église, hein, et même l'année prochaine, hein, on ne va pas vous dire trop souvent. Non, mais c'est merveilleux. Hein, je vous remercie. Bon, donc merci, cher pasteur, merci, cher ancien, merci, vous tous, frères et sœurs bien-aimés, pour la chaleur de votre accueil. Et c'est vrai, on est vraiment accueillis chaleureusement. Pour la qualité de votre écoute, pour votre soutien sans faille. Cela me fait chaud au cœur. Que le Seigneur vous bénisse richement pour tout ce que vous faites en son nom. Et Amen. Merci.